BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui donne une chance à votre argent grâce à la bourse chaque jour jusqu'à 18h. BFM Bourse, bienvenue à tous et en fil rouge, Antoine Larigaudry. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Catastrophe.
Quoi?
SpaceX ne gagne que 7,5%.
Oh non.
Quelle honte. Alors que ça gagne 20% en moyenne par séance, cette petite chose-là. Plus 7,8%, 207,54 $. Alors à noter que des analystes qui ont les yeux rivés sur les carnets d'ordre notent un nombre très 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 important d'options qui strike SpaceX à $250. Donc autant dire que ça va continuer à grimper ces prochains jours. Ça paraît évident, il y en a même du côté des 300. Bref, il y a encore des paris haussiers qui sont pris vraiment très très fort. Du côté de la cote, à noter que la tech reprend un peu de souffle. Nasdaq en baisse de 0,35% par rapport à un Dow Jones qui lui gagne 0,66%. Et même ambivalence du côté des marchés européens. Le CAC 40 prend 0,78% et on est sur des plus hauts qui nous ramènent au mois de mars, hein, date de notre dernier record absolu. On en est à 150-200 points, 8449 points. Mais la tech là aussi accuse le coup. On est en baisse de 1,35% sur l'Euronext Tech Leaders.
On va en parler bien sûr. La bonne nouvelle du jour, c'est le pétrole qui recule encore. On est actuellement sous les $80 pour le baril de Brent. Pour le baril de Brent, il est au plus bas donc depuis mars, $79.90. Nos marchés en profitent. Vous le disiez Antoine, SpaceX qui cartonne, hein, même si la hausse est un peu moindre qu'hier et avant-hier quand même, 7% de hausse supplémentaire. Ben, ça suffit à SpaceX pour en capitalisation passer devant Amazon. Et tout à l'heure, ça n'a pas duré longtemps, mais tout à l'heure, SpaceX est aussi passé devant Microsoft et est devenu la quatrième plus grosse capi mondiale. C'est quand même incroyable. À ce rythme, dans une semaine, SpaceX deviendrait la première capi mondiale et rattraperait Nvidia. On continuera d'en parler. On parlera aussi de ce signal plus négatif en provenance de la Chine. La consommation en berne là-bas. Les ventes au détail sont en repli au mois de mai pour la première fois depuis 2022. Un signal qu'on n'attendait pas de la part de l'économie chinoise et qu'on va essayer d'analyser avec nos experts du club dans une poignée de secondes. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché. Et au cœur du G7 qui se poursuit, ça se passe à Évian. Les dirigeants réunis en Haute-Savoie font monter la pression contre Moscou pour arrêter la guerre en Ukraine. Donald Trump promet lui-même de faire tout son possible pour y parvenir. Selon lui, les États-Unis étaient focalisés sur l'Iran jusqu'ici, mais ceci va bientôt être derrière nous, a-t-il dit, et de préciser que Washington pourrait bientôt rétablir les sanctions américaines contre le pétrole russe. En matière d'intelligence artificielle, la France tourne le dos au géant américain Palantir. Les services de renseignement français vont désormais passer à une solution française proposée par ChapVision. Une annonce de Sébastien Lecornu à la veille de l'ouverture de Vivatech. Sébastien Lecornu ajoute que le programme France 2030 va consacrer 655 millions d'euros supplémentaires au développement de l'intelligence artificielle. Et puis ces annonces importantes dans le secteur du retail. D'abord, Frédéric Merlin se sépare du BHV Marais. Il cède le grand magasin à son management, lequel entend revenir aux fondamentaux des lieux. Le contrat avec Chine, par exemple, ne sera pas renouvelé. Et puis toujours dans le retail, cette fois aux États-Unis, Pizza Hut est vendu, figurez-vous, il va changer de pavillon. Pizza Hut est vendu pour $2,7 milliards par Yum Brands, un fonds d'investissement. La chaîne de fast-food est en perte de vitesse depuis plusieurs années, dépassée désormais par son concurrent Domino's Pizza. Plus de détails d'analyse aussi dans le 18-19 et Vie Chevrillon, ce sera dans moins d'une heure. Mais d'abord, on est à vos côtés, BFM Bourse, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Sylvain Tigé, Loganadin, financier fondateur d'Ultra Bourse. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Christian Bitton, fil rouge, rebonsoir Christian.
Bonsoir.
Swiss Life Gestion Privée, professeur de finance à l'ESSEC. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. On peut juste rebondir pour démarrer sur cette actualité souveraineté. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. En plus Sylvain, la DGSI, donc les renseignements français, décide de rompre le contrat qui les lié à Palantir. Palantir à Wall Street perd 3,5% d'ailleurs aujourd'hui. Et ils choisissent un acteur français de la sécurité plutôt que Palantir. Parce qu'on se rend compte de nos dépendances aux Américains et qu'on peut pas complètement, forcément, toujours et en permanence faire confiance aux Américains. On choisit de rompre un contrat avec Palantir. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Effectivement, alors déjà, vous le soulignez très bien, Guillaume, le vrai enjeu pour nous, c'était notre souveraineté numérique, c'était de déléguer à un État tiers des informations aussi sensibles. Donc le fait que le gouvernement français ait opté justement pour une solution franco-française, c'est déjà un premier bon pas. Il convient de souligner une chose essentielle, c'est que les Américains, en réalité, ont toujours été dans le sens de leurs propres intérêts. Et donc, aujourd'hui, détenir l'infrastructure numérique, comme le font les États-Unis, c'est un enjeu et c'est un levier géopolitique majeur. Vous avez notamment le gouvernement américain qui a interdit l'exportation du modèle Fable 5 d'Anthropic il y a quelques jours. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, énormément de Français avaient utilisé Anthropic et Fable 5 pour justement commencer à faire tourner des modèles. Et voilà, on n'est pas propriétaire de notre infrastructure. La vraie question, c'est, va-t-on réussir dans les années à venir à rattraper cet écart qu'il existe entre nos amis américains, chinois et nous français, de façon technique, donc de façon purement en termes de ressources et de capital humain. Je pense que nous avons le capital humain en France pour justement être une nation numérique et être une nation de recherche en intelligence artificielle. Malheureusement, il nous manque une chose, c'est l'infrastructure qu'est les data centers et de la puissance de calcul. Donc le vrai enjeu pour nous, ça va être d'investir massivement dans ces sujets-là, mais c'est des sujets qui, à mon avis, sont déjà peut-être un peu... sur lesquels on est peut-être déjà un peu dépassé.
Oui, la DGSI donc rompt son contrat avec Palantir, c'est quand même un sacré coup de tonnerre, et remplace Palantir par un groupe français, ChapVision. Alors ChapVision détient plus de 70% d'un groupe coté en bourse. Le titre Coeris, c'est hyper spéculatif, attention, mais il se trouve que du coup Coeris, détenu par ce groupe choisi par la DGSI, gagne 15% en ce moment sur le marché parisien. On voit OVH aussi dans le cloud souverain français, bien progressé depuis hier, et Lighton aussi. Lighton, acteur de l'IA sécurisé, annonce avoir signé une quinzaine de contrats avec les institutions publiques françaises. On voit que l'État est en train de se déployer pour privilégier les acteurs français de l'intelligence artificielle. Lighton, très spéculatif aussi en bourse, Antoine, gagne 38% ce titre Lighton à l'instant.
Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que Palantir a des liens avérés très très proches avec le pouvoir américain et surtout avec Donald Trump. Que quand on veut fonder une stratégie basée sur la souveraineté, ça pose deux trois petits problèmes. Et puis se souvenir qu'il y a quelques mois, l'Allemagne nous a fait la blague de nous annoncer qu'ils allaient construire leur cloud souverain avec Amazon.
Ah oui. Le cloud souverain allemand avec Amazon.
Ils ont inventé ça. C'était pas mal. Mais voilà, non, chacun pour soi et c'est plutôt une excellente chose.
Christian, comment vous
En termes de capacité technique, Palantir est tout de même un des leaders mondiaux, techniquement parlant, de la cybersécurité. Donc, est-ce que c'est une bonne décision? Alors, à ce moment-là, on se débarrasse de Google. Parce que même pour aller sur l'intelligence artificielle, on passe par Google, Alphabet. On se débarrasse, jetez tous vos Apple, je ne sais pas s'il y en a, parce que tout est dans le cloud. Sur Apple, on ne peut plus travailler sans passer par le cloud. Et tout le cloud est stocké sur le territoire américain. On s'en débarrasse alors, parce qu'ils peuvent y avoir facilement accès. Nous sommes déjà dépendants et les investissements vont être terriblement lourds à rattraper. Il y a effectivement beaucoup d'annonces autour du G7 en ce moment pour essayer d'investir et rattraper notre retard, mais on est déjà hyper dépendants. Et je ne sais pas, Guillaume, si vous avez des lunettes méta, mais ça veut dire que tout ce que vous dites, tous les coups de téléphone que vous allez passer vont se retrouver dans des clouds et stockés déjà aux États-Unis. Donc, réaction politique très ferme, très forte, peut-être un peu tard.
Oui, et les data centers qu'on attend, ils ne sont pas encore là. Et quand ils seront là,
ils seront peut-être sur la Lune ou Mars d'ailleurs. SpaceX, on va reparler de SpaceX. Ouais.
Voilà. Ils seront pour nourrir l'IA américaine, ou on espère peut-être aussi l'IA française. Il y a Mistral qu'on n'a pas encore cité là. Et c'est vrai, c'est quand même l'autre coup de tonnerre dans la tech et qui nous fait prendre conscience des enjeux politiques autour de l'IA et de la tech, c'est qu'Anthropic ne pourra pas donner l'accès aux non-américains à ses meilleures intelligences artificielles. Ça, c'est une vraie prise de conscience qu'on sent venir, même à un an de la présidence. Ici en France, on voit plein de candidats nous dire attention, oh là là, ça c'est le signe qu'on est trop dépendant des Américains. Il faut absolument qu'on ne dépende pas de notre accès aux meilleures IA d'Anthropic ou d'autres. Voilà.
Oui, enfin, Anthropic a même été obligé d'interdire l'accès à tout le monde parce que comment vérifier que quelqu'un du territoire américain avec une adresse IP ou un VPN américain soit bien de nationalité américaine? Donc vous savez que le vendredi dernier, ils ont tout fermé. C'est impossible, sinon ils se mettaient hors la loi par rapport au décret fédéral qui venait d'être pris. Pas facile à gérer, mais inquiétant. Ça voudrait dire que l'intelligence artificielle fait de tels progrès qu'on va se retrouver dans Terminator 4 si ça continue. Ça fait un peu peur.
Mais alors du coup, ça limite peut-être le potentiel de la thématique en bourse, parce qu'on se rend compte aussi du coup, alors qu'Anthropic doit s'introduire en bourse, que l'État américain d'un seul coup peut limiter le marché adressable en disant non, mais vos IA elles sont trop fortes, vous en limitez l'accès aux seuls américains. L'État américain pourrait très bien entrer au capital d'un certain nombre d'acteurs de la tech américaine, donc peut-être un peu moins de potentiel à venir en bourse. Pour Anthropic qui veut s'introduire, c'est peut-être pas la meilleure publicité, la meilleure communication en ce moment, Sylvain.
C'est un vrai enjeu en réalité, hein, parce que aujourd'hui l'IA est un levier géopolitique majeur, c'est-à-dire que vous avez une technologie, une puissance qui peut radicalement changer en fait le destin d'une communauté de personnes. Ils ont coupé l'accès aujourd'hui, à la base aux non-américains aujourd'hui à tout le monde. Reste à savoir comment vont répondre les Chinois, parce que vous savez, les Chinois ont une stratégie assez différente. On l'avait vu chez vous, Guillaume, lors d'une précédente émission avec un ami de chez BNP Paribas, qui disait justement que les Chinois étaient dans une logique de dumping au niveau de l'intelligence artificielle. Ils collectaient de la donnée dans l'espoir d'avoir un ordinateur quantique qui permettrait ensuite d'utiliser toute la donnée collectée mondiale et ensuite de voir ce qu'ils en font. Donc les Américains sont interventionnistes. On en revient toujours à la même thèse, comme dans l'économie, faut-il être interventionniste, stopper les échanges commerciaux ou faut-il justement les ouvrir ? Bon, écoutez, je pense que là, c'est une première action politique du gouvernement Trump, à voir si ça se concrétise, parce que vous le savez très bien, Trump est versatile. Aujourd'hui, il coupe l'accès à Anthropic. Qui sait ce qui se passera dans 3 semaines ou dans 1 mois, son gouvernement peut très bien faire volte-face. Donc, je pense que le dossier n'est pas terminé et je pense qu'effectivement, il y aura, à mon avis, des sursauts.
Oui. Pour les investissements en bourse, je pense qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça prend une telle importance qu'il faut même que le politique commence à freiner ses développements. Donc, par rapport aux questions d'il y a à peu près un an et demi, est-ce que c'est pas du mirage? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est du Google amélioré? Non, il semblerait que vraiment, ça permette d'avancer vite, très vite, trop vite, disent maintenant les politiques. Donc, il y a bien une réalité économique, tout cet engouement en bourse qui n'est pas prêt de s'arrêter de toute façon. Oui. S'il n'y a pas que le logiciel, il y a tout de même tout ce qui est le semi-conducteurs, la fabrication, et pas que les semi-conducteurs, les super puces de Nvidia. Il y a tout ce qu'il y a derrière, parce que pour y accéder, on utilise des instruments simples, des micro-ordinateurs, des téléphones qui utilisent des puces normales et qui ont besoin de ces accès. Alors là, qu'est-ce que ça se développe et les bénéfices TSMC, Samsung Electronics, vous avez vu les résultats, la croissance. Et ça y est, on est dans le concret, on est sur un vrai développement.
Et alors vous citiez Nvidia. Nvidia annonce lever des obligations à hauteur de 25 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous pouvez investir, Antoine, on réussissait tout à l'heure ensemble on peut investir en actions sur Nvidia et on sait que ça a porté ses fruits ces dernières années, mais on peut aussi se faire plaisir à travers les obligations. Comme ça, si vous deviez choisir Nvidia, qui a encore beaucoup de croissance devant lui, vous choisiriez quoi? Les actions au cours actuel ou plutôt aller les obligations puisqu'ils vont en émettre à gogo à 25 milliards de dollars? Antoine?
Moi, je prendrais bien un paquet d'actions Nvidia, mais je prendrais bien aussi un paquet d'obligations et c'est du 5 ans à 5,5.
À 5,5,
c'est bien.
C'est pas mal, ouais.
C'est du bon rendement. Oui, oui.
Il se finance pas cher, quand même.
Il se finance à pas cher, ce que j'allais dire. 5,5, c'est bien, gratuit, mais à ce moment-là, par rapport au risque, je préfère prendre l'action.
Effectivement,
aussi.
C'est quasiment le taux des obligations d'État, quoi. Donc,
c'est
un bon
deal
pour Nvidia, ça, c'est sûr.
C'est pas génial.
Ouais, c'est pas.
On se verra tout à l'heure pour quelques conseils que nous n'avons pas le droit de prendre égal.
Pour répondre à votre question, Guillaume, c'est une très bonne affaire pour Nvidia. Elle se finance quasiment au prix des obligations d'État américaines. Ses actions sont sursouscrites, donc, à mon avis, s'échangent à des multiples. Donc, en termes de stratégie d'entreprise, c'est excellent. Vous financez à 5,5, les obligations d'État vont payer 4,5, 5, c'est très bien. Du côté investisseur, je pense qu'il y a quand même des choses à aller voir sur d'autres thématiques.
Ah, on parlera de SpaceX dans un instant, bien sûr. On parlera de la Fed, je vous rassure aussi, mais il semble qu'aujourd'hui, la tech soit presque plus importante que la Fed et que le statu quo attendu demain de la Réserve fédérale américaine. Mais on va quand même en parler de la Fed dans un instant. Alors, on se demandait aussi ces dernières heures si le fait que l'État fédéral américain intervienne sur l'accès à l'IA américaine va pas rendre l'IA chinoise peut-être plus attractive. Ben voilà, on n'a plus accès, comme on le souhaite, à l'IA américaine, autant se tourner vers les Chinois qui sont quasiment aussi bons que les Américains en matière d'IA. Et hier, on se disait, oui, mais qui voudra laisser ces données au Parti communiste chinois? Ben, un de nos auditeurs, il s'appelle Martin, il m'a écrit sur LinkedIn, Martin, et il me dit, non, là-dessus, vous vous trompez, Guillaume. Sur DeepSeek, par exemple, il est possible, bien sûr, d'utiliser DeepSeek, sauf que ce sont des modèles chinois, il y a aussi Quen de Alibaba, ce sont des modèles open source. Il est donc possible de les télécharger, de les faire tourner sur ses propres serveurs d'entreprise sans laisser ses infos aux autorités chinoises. Donc, on n'est pas obligé, quand on passe par l'IA chinoise, comme ça, de se dire, on va tout laisser, ils vont avoir accès à toutes mes données. Non, ça peut tourner sur vos propres serveurs, même si c'est l'IA chinoise, Sylvain.
Voilà. Moi, je pense que Martin, bon, c'est une très bonne remarque, mais l'utilisation que fait Martin, justement, de DeepSeek ne va pas forcément être celle de l'intégralité des personnes. Enfin, je pense que la plupart des gens qui utilisent l'IA ne vont pas forcément faire cette logistique d'aller télécharger le code open source, de louer un serveur, et puis, voilà.
Mais les entreprises vont se poser cette question quand même.
Peuvent se poser ces questions, mais je pense qu'en réalité, comme vous le dites, c'est un peu comme, vous savez, ce qui s'était passé à Constantinople au XVe siècle. Quand on bloque, en fait, un port, au final, c'est Amsterdam qui s'est développé. Hein, bah, c'est un peu la même chose. Les Américains bloquent l'intelligence artificielle, le flux de demande va se redéployer du côté chinois. Donc, je pense que les Américains vont assez rapidement reconsidérer leur stratégie. C'est un peu ce qu'ils ont fait en Iran. Hein. Ils ont tenté des choses, ça ne s'est pas passé, ils sont revenus en arrière. Je pense que sur ce dossier intelligence artificielle, ils vont à mon avis revenir sur leur stratégie.
Et je pense que pour les investissements financiers, on va peut-être enfin revenir sur la Chine, qui est tout de même un marché relativement en retard depuis le début de l'année. C'est clair, parce qu'on s'interroge sur les statistiques chinoises, sur les problèmes politiques, sur leur dépendance par rapport au pétrole du Golfe. Mais finalement, il y a donc maintenant de bonnes affaires en termes de valorisation à faire sur le marché chinois, qui ne se cantonne pas aux voitures électriques BYD. Voilà. On trouve tout de même un marché profond qui lui aussi est en retard, comme le marché japonais, qui n'a pas la performance du marché japonais.
Alors, je comprends, mais vous avez vu les ventes au détail en Chine. Là, au mois de mai, les ventes au détail en Chine reculent pour la première fois depuis 2022.
Oui. Ouais. Et ben voilà, c'est une des raisons qui fait que le marché chinois a baissé dans les allocations de beaucoup de stratégies et de recommandations, principalement aux États-Unis, la politique et puis l'activité domestique chinoise. On sait que la population chinoise vieillit, croit moins que la population indienne et surtout qu'elle doit subir un choc, une crise du logement terrifiante. Hein, l'effondrement du logement, les immeubles neufs qui sont détruits. Donc une crise de l'immobilier, ça fait très très mal et ça dure encore et donc ça pèse aujourd'hui sur la consommation domestique.
Les investissements immobiliers dans les grandes villes en Chine au mois de mai sont à un plus bas de 2020 pour le coup, voilà, ça nous ramène au Covid.
Oui, pour les investissements financiers, si on va chercher la technologie ou l'industrie chinoise, là les chiffres sont excellents. Ça fait partie d'ailleurs des bonnes nouvelles pour l'activité cette année, pour l'activité mondiale, parce que en même temps que ce chiffre que tout le monde commande de moins 0,2, on a un autre chiffre qui est sorti en même temps ce matin, qui est la production industrielle chinoise, qui monte encore. Elle est à plus 4,5% sur un an. C'est pas mal ça. Ça veut donc dire que l'objectif de 4,5-5%, qui sera fondamental pour que la croissance économique tienne cette année, pas avec ce qui va se passer en zone euro, avec le coup de la crise qu'on a déjà subi depuis 3 mois, qu'on y arriverait si elle n'avait pas des moteurs. Et les moteurs s'appellent encore États-Unis, mais surtout Chine, qui a été dévalorisée dans la plupart des pronostics à cause de ce problème de logement et d'économie domestique.
Alors les mauvais chiffres chinois du jour, ils se traduisent par une sous-performance d'un indice boursier en Europe, c'est le DAX. Bah oui, l'Allemagne et la Chine, il y a quand même des liens toujours, hein, des dépendances. Le DAX ne gagne que 0,1%, alors que l'Eurostock 50 gagne 0,5% et le CAC plus 0,7%. Sylvain, quel regard vous portez sur tout cela et sur, on parlera de SpaceX, hein, promis dans un instant, sur l'Europe, quoi, qui progresse, c'est vrai. On profite en plus d'une détente du baril de pétrole. Le baril de Brent repasse sous les $80. On est ravi. Sauf que l'Europe en profite moins que Wall Street. C'est ça qui est fou. C'est quand le pétrole montait, on en souffrait plus ici en Europe. Mmh. Et quand le pétrole baisse, les Américains en profitent plus que nous. Comment ça se fait ?
Le double problème, c'est qu'ils ont un indice qui est aujourd'hui effectivement surpondéré en valeur d'intelligence artificielle. Nous n'en avons pas. Donc, structurellement, nous sommes des indices d'industrie pharmaceutique où on est un peu du monde d'avant et on en souffre. D'accord, on est un petit peu comme à l'époque, vous savez, des compagnies est-indiennes là, où tout le monde investissait sur les bateaux pour aller découvrir l'Inde et l'Amérique du Sud. Bah, c'est un petit peu ça, on est l'ancien monde, la valeur a migré justement sur ces nouvelles industries. Et comme nos indices ne se sont pas recomposés, en fait, le vrai enjeu, il est là, du CAC 40 et du DAX. C'est d'intégrer des entreprises de haute technologie dans l'indice pour essayer d'attirer des capitaux. Mais comme on n'a pas ces champions nationaux, que ce soit en France ou en Allemagne, bah, on reste avec des indices composé de valeurs du monde d'avant. Et donc, les capitaux, que ce soit européens ou même mondiaux, vont justement vers des valeurs que vous citiez juste avant, comme SpaceX. Donc, le vrai enjeu pour le DAX, il ne montera pas, et malheureusement, comme le CAC 40, il risque de traîner la patte encore longtemps, parce que structurellement, ces indices ne sont pas composés des entreprises et des valeurs qui feront le monde de demain, et c'est bien ça le vrai enjeu pour nous.
Quand c'est la guerre, les indices européens sont en baisse parce qu'on subit le pétrole cher en Europe. Quand c'est la paix, les indices américains surperforment aussi. Pile, on perd. Face, ils gagnent. C'est l'un de nos auditeurs, Boulet Bertrès, qui le résume comme ça. Vous n'avez pas l'air
complètement d'accord. Je modérerai un tout petit peu cette approche. D'abord, oui. Il y a beaucoup plus d'argent aux États-Unis. C'est absolument incroyable. Les flux d'épargne. SpaceX, la semaine d'avant, c'était quelle augmentation de capital phénoménale. Alphabet, enfin, Google qui récupère ses par paquet de 80 milliards de dollars. À chaque fois, il y aura effectivement l'émission obligataire de 25 milliards de dollars
de Nvidia.
C'est énorme, les mouvements de capitaux vers les actions. Nous n'avons pas, et particulièrement en France, encore cette habitude de déplacer autant d'épargne vers les marchés actions. Et puis surtout, pour le marché européen, il est affecté par des poids dans les indices où il y a plus de valeurs cycliques, il y a plus de valeurs du luxe. Pour le CAC 40 notamment, il y a moins de valeurs technologiques. Mais il y a tout de même la progression des bénéfices attendus cette année qui n'est pas mauvaise, justement, sur ces valeurs traditionnelles ou cycliques ou d'approche qui ne sont pas de la nouvelle économie ou moins de la nouvelle économie. Oui. La progression attendue des bénéfices, révisée encore très récemment, même depuis le début du conflit, c'est tout de même du plus 15%. Pour les valeurs strictement de la zone euro, on se rapproche même de plus 18%.
Oui, oui.
Et c'est moins qu'aux États-Unis, mais l'année dernière, finalement, les résultats, la progression des PPA, ça a été 1%.
Oui, et aux États-Unis...
Donc là, on a un rebond.
Aux États-Unis, l'essentiel de la hausse des bénéfices vient des valeurs tech. Si
très
vous retirez les valeurs tech, c'est beaucoup moins brillant, pour le coup. Donc l'Europe n'a pas
C'est pas si mal
rougir,
que ça.
Quoi.
Il ne faut pas sous-pondérer. Il ne faut pas dire je vends l'Europe sur ce principe-là, parce que si on regarde les boîtes une par une, il y a un redressement, presque un rebond des bénéfices, bien que la croissance économique soit atone.
Et si la guerre véritablement prend fin en Iran et que le pétrole continue de baisser, là, ce serait beaucoup de potentiel et hausse supplémentaire pour l'Europe ou pas? Parce qu'on n'arrête pas de dire que l'Europe est plus exposée que les États-Unis. Est-ce que, du coup, ça ferait un bien fou à notre économie?
Oui, parce que le pétrole, on l'achète à l'extérieur. Donc, quand on calcule un PIB, un produit intérieur brut, ce qu'on achète à l'extérieur, ça sort, c'est de la consommation en moins, contrairement aux États-Unis qui l'achètent en intérieur. Mmh. Donc effectivement, tout ce qu'on dépense en pétrole en ce moment d'importation, c'est un surcoût qui diminue notre consommation, donc notre PIB. Et les calculs ont été justes. Si on revient dans les clous, c'est-à-dire vers 60-70 dollars le baril, ça aurait été un pic et non un choc. D'ailleurs, ce matin, M. Lescure l'a annoncé, c'est le temps de la relance, c'est le temps des cerises, voilà. Peut-être un peu trop optimiste, il faut faire attention, là en ce moment, les marchés achètent beaucoup la rumeur. Attendons la nouvelle d'ici 24 heures, le contenu de ces deux pages de l'accord, la signature effective de l'accord et surtout, les 60 jours en fait qui vont encore s'écouler avant qu'une vraie paix totale soit signée et son contenu.
Et est-ce que le détroit d'Ormuz sera rouvert avec ou sans péage? On entend parler d'un possible péage. Certains disent même, finalement, mieux vaut un péage, comme ça pérennise la réouverture que pas de péage, voilà. Certains pensent même que le pétrole sera moins cher avec un péage, parce que ça pérenniserait la réouverture. L'Iran aurait intérêt à percevoir l'argent, donc laisser ouvert le détroit. Et à l'inverse, sans péage, le pétrole serait plus cher parce qu'il y aurait plus d'aléas. Sylvain.
Eh ben alors à ce moment-là, mettons un péage partout, comme ça tout sera moins cher.
Mais oui.
Non, je pense que effectivement, moi je suis comme je suis d'accord avec vous. Il faut j'attends de voir dans le temps long, parce qu'effectivement ce type de stratégie depuis le début du conflit, j'apaise, c'est la fin de la guerre, je relance des missiles, je referme le détroit, c'est un petit peu la mécanique standard qu'on a vue. Donc attendons déjà de voir le contenu en fait de cet accord, attendons de voir les 60 jours. Et de toute façon, par contre, en revanche, moi je suis pas d'accord, si on met un péage sur le détroit d'Ormuz, dans tous les cas, ça va augmenter le prix de l'énergie. Je veux dire, c'est une évidence, donc ça va se répercuter quelque part, donc sur le prix des produits finaux chez nous. Il y aura deux solutions, soit ce péage est beaucoup trop cher, auquel cas l'énergie va prendre un autre chemin, d'accord, quitte à aller passer par le cap de Bonne Espérance pour remonter chez nous, donc ça veut dire plus long, plus cher, mais peut-être moins cher que le péage. Soit, voilà, il y aura, à mon avis, un choix qui va être fait, mais ça ne sera jamais moins cher avec un péage. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette hypothèse.
Ouais. On poursuit nos échanges, on est à 11 minutes de la clôture, on accélère dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC gagne 0,8%, 8447 points. Alors, il y a des champions français qui montrent l'étendue de leur talent en ce moment, qui savent saisir les opportunités de l'IA. C'est le cas de Schneider Electric, très présent dans les data centers, notamment Schneider Electric. Le titre gagne encore 2,5% ce soir. Bien orienté aussi Legrand dans la même thématique, en hausse de 2% aussi. Et puis on a Safran dans la défense, en hausse de 2,3%. En repli en revanche, à STMicroelectronics, à cause d'une émission obligataire qui a été annoncée, ce titre perd 4% aujourd'hui. On a Renault aussi en repli après la belle séance d'hier, moins 3% comme Stellantis aussi qui recule d'1,7%. On en parle ce soir avec nos deux experts, Sylvain Tiger, Logan Adin et Christian Bito. La fête demain, on va parler SpaceX dans un instant, juste la fête demain soir, d'un mot en une minute, on attend un statu quo. Pas évident quand même pour Kevin Warsh, ce sera sa première conférence de presse, alors que l'inflation accélère aux États-Unis mais que le pétrole recule nettement. Il va falloir vraiment justifier ce statu quo ou cette baisse ou cette hausse de taux, enfin, quel que soit le choix de la fête, il sera pas facile à justifier. Christian.
Moi je parie pour un 0,15. 0,25 serait peut-être un tout petit peu trop. Je l'ai dit tout à l'heure, 0,25, ça voudrait dire que la Fed fait de la politique, c'est pas le moment, parce qu'effectivement, les midterms arrivent, il y a les 250 ans, il y a trop d'actualités politiques. Ne rien faire ne serait pas cohérent par rapport à une inflation, la CPI est à 4,2. Beaucoup plus important, maintenant je regarde ça de très très près, ce sont les prix à la production. C'est-à-dire les prix des produits semi-finis qui sortent des industries américaines, on en est déjà à plus 6,5% sur un an glissant. Il faut se rappeler qu'en 2022, les prix à la production en Europe, par exemple, qui a été la première touchée par l'Ukraine-Russie, les prix à la production étaient montés à plus 40%. D'accord. Et là, d'un coup, on vient d'effectuer ce bond. Ça commence aux États-Unis, puis on en parlera certainement tout à l'heure, en zone euro, plus 4,9%. Donc ça y est, les industries commencent à répercuter ces hausses de prix, moins qu'en 2022, mais ça commence sévèrement. Donc il est possible qu'il y ait une petite intervention, mais petite.
Petite hausse de taux.
Oui, petite hausse de taux.
De 15 points de base, pas 25, 15 points de base. Oui.
Tout est dans la quantité.
On est tellement habitué aux 25 ou 50 que ça ne fait bizarre.
Un truc très simple, je vous ai parlé de 2022 qui est l'exemple de la dernière sévérité qui a cassé en fait les marchés financiers de hausse des taux des banques centrales. C'est vraiment 2022, ils sont allés fort, les taux sont passés pour la Fed de 0,25% à 4,75%. Ça, c'est pas du 0,15, c'était la BCE de 0 à 4%. C'était vraiment absolument radical. Mais, grosse différence, quand on regarde 2022, le baril de pétrole était passé de $70 à $115, comme nous là en ce moment. Mais ça avait duré, pour qu'il revienne à $70 le baril, ça avait duré 8 mois en 2022. Aujourd'hui, si vraiment on considère que l'accord est signé, on est revenu en dessous de $80. Et donc on a fait un pic sur les cours du baril de pétrole en passant de $70 à $110 et en revenant à $78 à l'heure. En fait, qui n'a duré que 3 mois et demi. Donc, c'est un véritable pic. Ça n'a peut-être pas eu le temps de se propager en effet de second tour.
On aurait une désinflation aussi violente que l'a été
ça pourrait aller beaucoup plus vite.
Pétrole.
En tout cas, pour le moment, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça se propage ? Oui, les prix à l'industrie. Maintenant, ce sera les salaires.
Donc, c'est original, hein. Vous attendez, pourquoi pas, une hausse de taux surprise de la Fed, mais de seulement 15 points de base pour dire on y va, mais sans ouvrir un cycle. Ouais. Quoi.
Ouais. Parce que
ça ferait un peu petit joueur, quand même.
Oui, mais pas de réponse serait aussi mauvais que si Mme Lagarde avait dit « je passe mon tour ».
Ah oui, d'accord.
Les marchés l'attendaient, vous avez bien vu, les taux de la BCE
montent,
les marchés obligataires, les taux ne bougent pas, ils ont même baissé puisque le pétrole a rebaissé. Ouais. Contrairement au Japon, ce matin, les taux montent de 0,10, les taux longs montent. On n'est pas du tout dans la même approche politique des banques centrales aux États-Unis.
Sylvain, vous partagez l'idée, pourquoi pas une hausse de taux surprise demain, mais seulement 15 points de base pour pas trop paniquer le
marché. Moi, je pense que ça ne serait pas une bonne chose, en fait, pour le banquier central américain qui est une ouarge de monter les taux pour une raison qui est simple, c'est que sur les origines de cette inflation, c'est une inflation due à une perturbation des chaînes logistiques et non pas forcément due à une augmentation soudaine de la consommation, auquel cas l'outil qu'est la montée de taux ne serait pas forcément une réponse adaptée dans ce contexte particulier. Je trouve d'ailleurs que la montée des taux de Christine Lagarde n'est pas non plus une réponse appropriée. Elle va monter les taux dans un environnement où la consommation est déjà en berne, en espérant que l'inflation baisse. Mais l'inflation va forcément se propager en Europe d'ici la rentrée parce qu'il y a une perturbation des chaînes logistiques. Vous parliez du pétrole qui s'échangeait à 80-90 $ le baril. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché de gré à gré, le vrai prix, c'est 150-170 $ le baril. Donc il y a un marché spot et il y a un marché réel auquel s'échange le pétrole. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec la réponse du banquier central qui veut combattre l'inflation en montant les taux. Dans ce contexte particulier, ça n'est pas l'outil adapté.
Ah, c'est dit. Ouais. C'est demain, qu'on saura.
Oui, parce que 0,25 ou 0,15, c'est une non-réponse. Oui, ça ne fait rien du tout.
Réponse politique.
Voilà. Si ça avait été une hausse des taux de 1%, enfin.
Il faudra bien profiter de la conférence de presse parce qu'il n'y en aura peut-être pas avant encore longtemps. Hein. Il veut raréfier, limiter le nombre de conférences de presse et rendre moins automatique. Bon, demain soir, il n'y échappera pas pour sa première, la première décision politique monétaire de son ère. Kevin Warsh, donc, a suivi demain soir à partir de 20h30 cette conférence de presse. SpaceX, on y vient, gagne en ce moment sur le marché américain 10%. Allez, on est à plus 50% depuis l'introduction en bourse vendredi, en à peine 3 jours. Tout à l'heure, SpaceX est passé en capitalisation devant Amazon et devant Microsoft également, devenant la 4e capi mondiale. À ce rythme de hausse, si la hausse se poursuit au même rythme, dans une semaine, Sylvain, SpaceX deviendra la première capi mondiale devant Nvidia.
Écoutez, c'est un peu la tulipomanie, hein. Enfin, c'est un peu la même chose. Bon, on va passer encore une fois pour les Cassandres, voilà, de la finance française. Mais effectivement, là, il y a un vrai engouement. Tant mieux. C'est une valeur qui a été très bien promue par toutes les banques d'affaires, par tous les intermédiaires financiers. J'ai rien à redire, mais Effectivement, on a un vrai effet d'engouement. Ça va forcément retomber.
Je sais pas. Ça a été bien monté. Hein. Il y a une architecture
c'est bien
financière
monté.
Quand même.
Non, c'est bien monté. Ce marché monte. Enfin, est nourri d'optimisme. Tant que ça tient, tant mieux. Moi, je pense que c'est un peu le jeu des chaises musicales, Guillaume. Si vous êtes dedans, que vous avez gagné 50% en 2-3 jours, voire une semaine, bah, réfléchissez de façon stratégique. Le TRI d'un fonds de private equity, c'est 15-17% en annualisé. Bon, là, vous faites 50% en 10 jours, c'est super. Ouais. Annualisez votre rendement et réfléchissez en vous disant, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de sortir maintenant? Après, chacun fera comme il veut, mais voilà, d'un point de vue strictement logique, 50% en 10 jours, tant mieux. Prenez vos bénéfices et...
Christian, comment vous regardez cet OVNI?
Oui, c'était une belle IPO, mais il y avait une telle demande, en fait, qu'il y a aussi tout de même en ce moment le déversement de ceux qui n'ont pas été servis et qui en voulaient parce qu'ils ont des contraintes institutionnelles, parce qu'ils craignent que ça devienne une valeur majeure dans les différents indices, donc ils prennent leur position à n'importe quel prix. La hausse est absolument phénoménale. Je pense pas que ça se casse la figure, mais ça va se calmer.
Ça va finir par se calmer quand
ça
même.
Va se calmer.
Il y aura peut-être un petit creux quand
non,
même.
Non, il faut attendre ensuite les premières annonces de résultats, d'autres éléments. Ouais, oui. Les mouvements de taux d'intérêt, mais là, ça va simplement se calmer parce qu'il y avait un carnet d'ordres à déverser qui n'a pas été servi lors de l'IPO initial.
C'est un analyste qui s'appelle Lepogam qui écrit « Pendant 50 ans, on nous a vendu un futur rétréci. Moins d'énergie, moins d'enfants, moins d'ambition. Gérer le déclin proprement. » Et là, d'un coup, le plus gros actif financier du monde est un pari sur l'inverse. L'abondance, l'expansion et l'aventure. Le pessimisme avec SpaceX, le pessimiste, ajoute cet analyste, vient de passer en position vendeuse sur lui-même. Christian.
Bon, il conserve ses propos.
Sylvain.
Non, je suis d'accord, c'est un peu la découverte, en fait, si vous voulez, de la Nouvelle-Amérique ou de la Nouvelle-Inde à l'époque, là, Christophe Colomb. Hein, que là, le monde étant un univers fini que nous maîtrisons, ils partent à la découverte d'un nouvel univers pour découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles sources de richesses, de valeurs. Enfin,
Faire des médicaments dans l'espace.
Oui, c'est l'exploration vers un nouveau monde. Et en fait, ça attire de la même façon que, vous savez, les compagnies néerlandaises avaient créé la bourse pour financer justement ces expéditions et la société privée avait été créée justement dans ce but-là. Là, on est c'est un peu la continuité de notre époque. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Guillaume, Milei en Argentine a créé un cadre juridique pour des sociétés gérées par l'IA. Voilà, on vit dans un monde où l'IA pourra créer sa petite société privée, investir dans SpaceX. Enfin, on vit un monde absolument fabuleux et je pense que c'est effectivement, comme il le dit, ça va être intéressant.
Et même quand il s'agira de publier ses résultats trimestriels, SpaceX ne le fera pas comme les autres. SpaceX annonce qu'il communiquera son information réglementée, donc ses résultats, uniquement sur son site internet et sur X. Il va donc se passer des diffuseurs traditionnels de communiqués de presse comme Business Wire, PR News Wire ou d'autres. Voilà, il faudra, pour avoir accès aux résultats de SpaceX, aller sur la page SpaceX ou sur le fil X de SpaceX. Donc, toujours passer par Elon, mais ce sera une façon de verrouiller aussi cette communication, Christian.
C'est normal. Non, mais c'est normal, là, il tient la totalité de son truc. Et pour commenter le jour où les résultats sortiront, ne comptez pas sur l'IA. Nous serons toujours là, Guillaume.
Exactement. Et nous aussi, pour l'analyse humaine de SpaceX, on en aura besoin. Dans quelques instants, la clôture des marchés ici en Europe, on entre d'abord dans la Data Room. Les data, c'est de la transparence. Elles aident les data à voir sous l'écume du quotidien. Vos data, messieurs, vont donc nous ouvrir les yeux. C'est le but de la Data Room. Christian et Sylvain, êtes-vous prêts à nous livrer vos data? Vous avez chacun. Ils ont dit oui. Avec la tête.
Oui.
Oui.
Pareil par le geste.
Le consentement, je dis oui.
Exactement. Tiens, on va démarrer avec vous, Christian. Votre chiffre ce soir, plus 3,4%.
Plus 3,4%, il est sorti ce matin et je me demande si Madame Lagarde avait une information d'initié. Parce que plus 3,4%, c'est la hausse moyenne des salaires en zone euro sur un an glissant. C'est tout de même assez lourd, assez fort, puisque l'inflation vient tout juste pour les prix à la consommation. L'inflation complète, elle est montée à 3,2% en zone euro sur un an glissant. Les salaires sont à 3,4% et donc il est logique. C'est pour ça que je vous avais dit, bon, même si ça n'a fait plaisir à personne, cette hausse de taux de 0,25%, de montrer ce qu'on appelle un principe de précaution. C'est nouveau. On applique le principe de précaution en finance. C'est-à-dire que le 0,25, tout le monde le sait, ne fait rien, sauf que ça a goûté un peu à ceux qui empruntent à taux d'intérêt variable, mais elle a eu raison de réagir parce qu'il ne faut pas enclencher une spirale salaire-prix. Et cette spirale, la semaine dernière, j'ai été très critique, on ne la voyait pas. Parce qu'on n'avait pas ce nouveau chiffre qui n'est sorti par Eurostat ce matin.
Et à la lumière de ce chiffre, vous trouvez justifié la hausse de taux.
C'est plus justifiable.
Oui, oui. Et ce matin, la Banque du Japon a relevé ses taux. Alors là, dans un contexte complètement différent, on voit que ça a zéro impact sur le marché. On craignait les hausses de taux japonaises.
Oui, bon. Pas trop. Oui, mais au Japon, les salaires, plus 3,5 sur un an.
Oui, oui.
Donc voilà pourquoi il a fait. Il faut regarder les salaires.
Les taux souverains américains, européens qui se détendent malgré la hausse de taux du Japon ce matin. Bon. Christian, vous vous êtes livré pour nos auditeurs et téléspectateurs. À vous, Sylvain, votre data, 250 000 euros.
Effectivement, 250 000 euros, c'est un chiffre que j'ai calculé. C'est le coût, en fait, que coûte un citoyen français de ses 0 à 30 ans à l'État si on additionne justement les dépenses de l'éducation et les dépenses de santé. Ce qui revient à dire que la France investit massivement dans son capital humain, à savoir ses concitoyens. Le problème que nous avons actuellement, c'est que d'après un sondage OpinionWay de 2023, 54% des jeunes Français de 0 à 30 ans se déclarent, 18 à 30 ans, se déclarent favorables à l'expatriation. Et donc, ce que j'aimerais souligner dans cette intervention, c'est le défi que nous aurons, en fait, d'ici 2032, à garder nos jeunes et à garder nos forces vives, car c'est la plus grosse dépense de l'État et c'est peut-être son plus gros actif. On parle souvent de matières premières comme actifs des États, notamment au Moyen-Orient ou dans les pays du Nord. La France ne regorge pas de pétrole, mais elle regorge d'un vivier encore plus important, c'est le vivier intellectuel, c'est son capital humain. Ce capital humain aujourd'hui est aspiré par les États-Unis et j'aimerais que nous discutions des solutions pour le garder en France.
Les choses sont dites, et les capitaux européens aussi qui vont dans SpaceX en ce moment. Hein, et on a toujours la pompe à capitaux là vers les entreprises américaines. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir. Dans un instant, la clôture avec Antoine dans BFM Bourse. On est à vos côtés jusqu'à 18h. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir.
Comment termine-t-on aujourd'hui ?
Alors pas au plus haut de la séance, mais enfin quand même bien orienté. À plus 0,75% à la clôture, 8447 points. Les volumes d'échange tout à fait corrects à 4 milliards d'euros d'actions négociées. Et une tech européenne qui piquait du nez quand même. Hein. Moins 1,29 pour l'Euronext Tech Leaders. C'est rare de voir le CAC 40 aussi bien orienté et l'Euronext Tech Leaders en même temps en baisse marquée comme ça. Et on surperforme d'ailleurs avec le CAC 40 le reste de l'Europe boursière. L'Eurostock 50 a fait plus 0,45, plus 0,07% à Francfort. Donc on était pas mal. Alors pas grâce à la tech, mais grâce au luxe. C'est sectoriellement le plus gros contributeur à cette hausse avec Hermès qui gagne 2,19 749, avec également LVMH qui prend 1,5% à 520,30 €. Mais la plus forte hausse, et ça s'est passé au fixing, c'est Publicis qui a dépassé tout le monde à plus 2,56 à 92,12 €. A signaler le secteur de l'auto, alors là c'était pas la bonne journée, hein. Renault moins 3,4% à 27,82 €, Stellantis moins 1,94 à 5,97 €. Bien noté ST Micro qui signe la plus forte baisse du jour. Alors il y a eu une émission obligataire visiblement qui a pesé sur le cours des actions, moins 4% à 65,66 €.
Dorian Abadi nous rejoint dans un instant pour mesurer le potentiel à venir après cette clôture donc en hausse du CAC 40. À Wall Street, on est un peu mitigé, le S&P moins 0,2, Nasdaq aussi a basculé un peu dans le rouge à moins 0,5 en ce moment, cet indice Nasdaq. On va refaire la séance, vous apporter un maximum de pistes d'investissement, c'est BFM Bourse pour encore quelques minutes.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec qui vient de nous rejoindre, Adrien Henry, analyste marché pour Kepler Chevreux. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. On gagne donc 0,7% ce soir sur l'indice CAC 40. Un mot quand même des financières, parce qu'on a un nouveau plus historique aujourd'hui de BNP Paribas. Discrètement, on parle tout le temps de SpaceX, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, à retrouver en replay, on a beaucoup parlé de Palantir, hein, on en parlera aussi. Bon, discrètement, les valeurs financières françaises et européennes construisent des plus hauts. Pic historique de BNP aujourd'hui, pic historique à nouveau aujourd'hui de BBVA, BBVA l'espagnol, et pic historique plus haut de AXA. Comment vous regardez ce phénomène sur les financières là, cette semaine ?
Ce rebond, il date à peu près d'un mois déjà. Quand on a commencé à avoir les craintes ça réduire au niveau du conflit au Moyen-Orient, ça a été un changement de paradigme pour les valeurs cycliques en général, j'ai envie de dire, donc les bancaires notamment. Et puis, on a des taux directeurs qui ont été relevés au niveau de la zone euro. Donc, c'est un autre élément également qui peut effectivement soutenir l'ensemble du compartiment. C'est les noms que vous avez cités. Nous, on privilégie particulièrement une banque d'ailleurs dans le lot des financières. On privilégie ING, qui est une banque au Benelux, et donc ça fait partie de nos valeurs préférées, donc on a tendance plutôt à pousser celle-ci aujourd'hui que les banques françaises.
Oui. Oui, avec un contexte, un faisceau de signaux qui portent ces valeurs donc sur de nouveaux plus hauts historiques. Pour le deuxième semestre, qui va bientôt commencer quand même, on essaie de se préparer là,
déjà.
Est-ce que vous avez avec vos équipes chez Kepler des idées de pépites en bourse ?
Alors Pépite, ça en fera certainement sourire certains, mais on apprécie Capgemini. Capgemini, en fait, c'est un groupe qui a pas mal pâti de l'intelligence artificielle. Il fait partie considéré entre guillemets comme les perdants de l'intelligence artificielle. On n'est pas d'accord forcément sur cette interprétation-là. Et évidemment que ça va entraîner des chamboulements. Mais aujourd'hui, Capgemini fait partie au niveau des secteurs des services informatiques, fait partie encore vraiment des derniers gros perdants en bourse, comme on a pu le voir sur les médias. Mais vous disiez que Publicis effectivement était en top aujourd'hui. Le secteur des médias reprend son souffle depuis un mois. Secteur des médias qui avait beaucoup pâti de l'intelligence artificielle. On pense que cette stratégie-là, ou enfin, en tout cas cette interprétation-là, elle est possible pour le secteur des services informatiques, dans lequel fait partie Capgemini. Et donc, on pense typiquement que Capgemini, c'est un groupe qui est solide, avec des bons fondamentaux, qui se reflètent pas du tout aujourd'hui dans les niveaux de valorisation. Quand je parle de fondamentaux, je pense à une croissance organique des ventes de 4-6%, croissance des résultats, des BPA de près de 10%, un rendement de 5%. Voilà, c'est pas du chose du tout qu'on voit. Le principal risque qu'il y avait sur ce dossier-là, c'était les craintes de récession si le conflit escaladait au Moyen-Orient. Ça, c'est ce risque-là, j'ai envie de dire, ce week-end s'évapore progressivement, mais c'est un élément qui pesait sur le cas, et aujourd'hui il disparaît. On voit pas du tout, Capgemini fait pas partie des rebonds de ces dernières séances, quoi.
Depuis le 1er janvier, Capgemini perd 32%.
Tout à fait. Ça nous semble être un bon point d'entrée autour de 100 euros. C'est un niveau qui nous semble intéressant.
Moins 32, comme SAP aussi, qui depuis début d'année perd 32%. On a une question d'auditeur sur le fil XBFM Bourse. Vos questions comptent. N'hésitez pas à nous adresser toutes vos interrogations. On les relaye à nos experts. C'est Alaction qui nous a écrit. Quel potentiel sur SAP? Ce titre a très largement souffert des inquiétudes sur l'IA, mais continue d'afficher des chiffres en progression, justement grâce à l'IA. En plus, SAP recrute de nouveaux clients. Qu'en pensez-vous, boursièrement parlant? Question d'Alaction.
Très bonne question. Effectivement, comme le Capgemini, comme le service informatique, le segment des logiciels a également beaucoup pâti de l'intelligence artificielle, enfin en tout cas du développement potentiel sur l'intelligence artificielle. L'idée sur SAP, ils ont un énorme événement qui s'appelle Saphir, hein, qui a été plusieurs journées de rencontres avec des investisseurs pour présenter leur stratégie au niveau de l'intelligence artificielle. Globalement, SAP, c'est un rythme de croissance qui va être stable d'ici jusqu'à 2030, parce qu'il y a une migration qui se fait des clients de SAP vers les offres cloud. Et cette migration-là, elle va garantir la croissance et la rentabilité du groupe jusqu'en 2030. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va avoir après 2030? Et la question pour l'instant, elle est qu'il y aura des perspectives qui seront liées à leurs offres qui seront développées au niveau de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'établir réellement. Enfin, il n'y a pas d'élément vraiment tangible aujourd'hui qui a été démontré de la part des SAP pour garantir, entre guillemets, qu'il y aura une croissance soutenue grâce à leur offre, parce qu'il va falloir combattre les anthropiques, les grandes sociétés de l'intelligence artificielle. Mmh. Et ça reste encore à démontrer aujourd'hui pour SAP. Ouais.
Alors voilà, c'est le grand enjeu pour les Européens, reconquérir un peu de souveraineté face à la tech américaine, moins dépendre de la tech américaine. Vous citiez les interrogations autour d'Anthropic. Il y a des interrogations aussi autour de Palantir. Les renseignements français, la DGSI, a décidé de rompre son contrat avec Palantir. Mmh. C'est pas rien. Il déchire le contrat avec Palantir pour moins dépendre des décisions politiques américaines. Le patron de Palantir, en plus, Antoine, est relativement proche, directement proche de Donald Trump.
Oui, totalement.
Voilà. Contribuer à poser question quand les renseignements sont exposés à Donald Trump, au pouvoir politique direct américain, on parle des renseignements intérieurs, c'est un souci. Donc, la DGSI rompt son contrat avec Palantir et choisit un autre groupe, un groupe français pour remplacer Palantir, un groupe français qui détient 70% de Coeris. Alors, c'est une toute petite valeur, mais elle a gagné 17% ce soir, Coeris. On a Lighton aussi dans l'IA sécurisée qui nous annonce multiplier les contrats, une quinzaine de contrats désormais avec les établissements publics français. Lighton a gagné ce soir 40%. On sent qu'il y a une prise de conscience et de plus en plus de contrats. L'État français est en train d'agir pour privilégier des acteurs nationaux plutôt qu'américains.
C'est indispensable, effectivement. Je pense que le wake-up call, comme on dirait en anglais, ce réveil de la part des Européens, il est indispensable pour développer les groupes nationaux et européens. Donc, on a des secteurs qui se portent très bien, comme le secteur de la défense. Mais il est évident qu'il faut continuer à développer. On a vu un peu ce revirement de situation sur le secteur des télécoms, par exemple, où ce mouvement de consolidation qu'on voit sur le secteur des télécoms va permettre davantage d'investissement et d'avoir des acteurs qui soient forts en comparaison des acteurs américains. Et évidemment, sur ce segment-là, il faut continuer à pousser des acteurs européens. Celui qui a beaucoup émergé dans ces discussions de souveraineté, on peut dire que c'est OVH Cloud qui est dans un segment d'activité qui est très proche des data centers, qui est à la fois très loin encore de ce qu'on peut faire aux États-Unis en termes d'hyperscaler et de data centers extrêmement développés. Donc on n'est pas sur les mêmes types de profils, ni sur les mêmes niveaux de valorisation. Donc OVH encore du travail travail à faire à ce niveau-là. Mais le cours de bourse a déjà bien anticipé cette anticipation au niveau de ce call, enfin de cette stratégie de souveraineté.
Ouais. Reconquête de souveraineté. OVH encore en hausse, belle hausse à nouveau ce soir. Hein, c'est vrai, plus 4% à nouveau, plus à 17,60. Vous dites ça commence à, faudrait faire une pause quoi. Là,
oui, on pense qu'effectivement, il va falloir quand même démontrer les aspects opérationnels parce que c'est pas le tout de faire de la croissance. Hein, mais c'est important de faire de la croissance et de dégager en même temps des liquidités, des flux de trésorerie. Si vous faites que investir et votre croissance elle est pas rentable, eh bien là effectivement il y a un problème de modèle. C'est pas possible ad vitam aeternam. D'où la question qui se pose aujourd'hui effectivement sur les data centers et leur viabilité en termes d'investissement. Oui.
Oui, la quête de souveraineté européenne, l'État français qui commence vraiment à se bouger pour privilégier les acteurs nationaux ou européens. Et on le voit donc à travers le choix de la DGSI de rompre son contrat avec Palantir au profit d'un acteur français. Intéressant, passionnant. Alors la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux choisir un acteur national quitte à ce que technologiquement il soit pas quand même complètement encore au même niveau que l'équivalent américain ou plutôt l'américain mais quitte à perdre en indépendance? C'est une vraie question. Peut-être que technologiquement, on est au même niveau, hein, c'est possible. Alors là, franchement, dans un domaine très spécifique, on peut imaginer que malgré tout, parfois, la France ou l'Europe puissent rivaliser par morceaux. Le CAC 40, ce soir, en clôture, gagne 0,7%. Plus léger, ce soir, les Bleus entrent dans le mondial. La compétition incroyable et phare que tout le monde va suivre, ce match France-Sénégal ce soir. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun... Vous allez suivre ce match d'ailleurs.
Bah, bien entendu, allez les Bleus, hein, comme on dit.
Allez les Bleus. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la bourse. Et si, justement, c'est une façon d'introduire notre question du jour à nos auditeurs, téléspectateurs, et qu'on va vous poser aussi. C'est notre question sur X et LinkedIn. Vous pouvez tous tenter d'y répondre, nous apporter vos arguments en commentaire. Alors que les Bleus entrent ce soir dans la compétition, dans quel domaine la France est-elle déjà championne du monde en bourse à vos yeux? Voilà. Dans quel domaine est-ce qu'on n'a plus besoin de prouver qu'on est déjà champion du monde? En bourse, en tout cas, Adrien.
Je pense que le secteur du luxe, c'est le parfait exemple. C'est un secteur qui est beaucoup envié, qui est très radieux à l'international. Donald Trump nous le démontre encore une fois en voulant essayer de taxer les sociétés de luxe, alors de luxe en habillement ou le luxe en boisson. On voit que voilà, ça fait toujours le devant de l'actualité. On rayonne, j'ai envie de dire, à l'étranger là-dessus. Et à quand les maillots de l'équipe de France en Christian Dior, en Gucci, voilà, ça peut être une question stratégique pour la Ligue française de football.
Ah oui, c'est magnifique ça, effectivement. Oui, oui. Donc pour vous, c'est en bourse à travers le luxe que la France a déjà prouvé qu'elle était championne du monde et on va dire qu'elle ne pourra pas perdre son trophée.
Complètement. Et j'ai envie de dire que c'est plus intéressant de présenter les choses comme ça que de mettre en avant dans un secteur comme la défense qui effectivement fait beaucoup l'actualité, mais bon, qui est, on va dire, sur des lignes d'espoir global. Voilà, le luxe fait plus rêver que la défense.
Que la défense. Mais la défense aurait pu concourir au concours, à savoir dans quoi la France est championne du monde. La défense, on a des arguments.
Je pense que la crise au Moyen-Orient parle d'elle-même à ce niveau-là pour pousser des acteurs français comme Thalès.
On pourrait dire que la France est championne de la taxation aussi, mais on l'a... Bon.
Moins positif.
Oui. Oui, le but était d'être positif, vous avez raison, j'avais oublié. Merci beaucoup Adrien.
Avec grand plaisir.
Adrien Henry avec nous ce soir pour Kepler Chevreux. Le CAC gagne 0,7% en clôture, 8447 points. Dans un instant, le 18-19 Edwige Chevrillon avec Antoine à ses côtés pour débriefer cette nouvelle séance. On va voir aussi où on est SpaceX. SpaceX, on vous le rappelle, a détrôné tout à l'heure Amazon en capitalisation. Et SpaceX est brièvement passé aussi devant Microsoft. On l'a vécu, c'était vers 16h tout à l'heure. Ça a duré quelques secondes. SpaceX était devenu 4e plus grosse capi mondiale. Ce titre gagne encore 8% à l'instant. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.